Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale a deux invités complémentaires. D'abord, Louise Arbour, la représentante spéciale de l'ONU pour les migrations internationales, venue dans nos studios souligner la nécessité de montrer l'impact positif des migrations pour changer la perception de l'opinion publique. L'autre invité est Jean-Christophe Basse. Il reviendra sur la question de l'entente entre les cultures, aussi appelée diversité culturelle, à l'occasion d'un forum organisé à Bakou en Azerbaïdjan. On commence donc avec Louise Arbour qui répond aux questions de Pascal Signe. Louise Arbour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été nommée représentante spéciale du secrétaire général pour les migrations internationales. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette question des migrations et sur les défis à venir ?
Écoutez, la mobilité humaine, ça n'est pas un phénomène nouveau. Je pense que les êtres humains se sont toujours beaucoup déplacés. Mais ces dernières années, on a vu, je pense, dans certains cas, des mouvements de population provoqués par des situations extrêmes, des guerres qui ont forcé des gens à se déplacer en très grand nombre. Et je pense que ça a donné lieu à beaucoup d'inquiétudes. Alors, le défi qui est devant nous aujourd'hui, je pense que c'est de redresser un peu la conversation sur cette question de la mobilité qui touche les réfugiés, bien sûr, des gens qui sont gouvernés par la Convention sur les réfugiés, qui protège les gens là, qui fuient la persécution sur une base ethnique, religieuse ou autre, mais également tous les gens qui se déplacent, soit pour être réunis avec leur famille, très souvent à la recherche de travail, d'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, on parle d'un phénomène ancien, mais qui est beaucoup d'actualité et qui va être avec nous pendant très longtemps. Les moyens de communication, de technologie de communication, de transport sont tels qu'on doit s'attendre, je pense, à beaucoup, beaucoup de déplacements là, dans les années à venir.
En tant que représentante spéciale, vous allez diriger le suivi du sommet de haut niveau sur les vastes mouvements de réfugiés et de migrants. Comment voyez-vous votre rôle dans les prochaines négociations sur les deux pactes mondiaux ?
Les États membres des Nations unies se sont donné comme mission à la fin de 2018 d'avoir une grande conférence sur la migration dans l'espoir d'avoir deux pactes, un sur les réfugiés qui est géré par le Haut Commissariat aux réfugiés et un sur la migration qui est en fait géré par les États membres eux-mêmes. Et mon rôle, entre autres, c'est d'accompagner ce processus en mettant à disposition des États membres toutes les connaissances des agences onusiennes qui ont dans leur mandat un aspect migratoire. Donc, il y a évidemment l'Organisation internationale de la migration qui s'est joint récemment comme organisation associée aux Nations unies, le Haut Commissariat aux réfugiés, le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il y a beaucoup d'agences onusiennes qui ont un intérêt sur cette question. Alors, c'est de mobiliser ces connaissances pour accompagner le processus, avec un rôle évidemment également de développer des politiques, des idées nouvelles pour en arriver à ce pacte mondial à la fin de 2018.
Quelles sont les principales étapes au cours des 18 prochains mois pour élaborer ces deux pactes mondiaux d'ici la conférence internationale de 2018?
Il y a un processus assez formel qui consiste, commençant dans quelques semaines, en mai, à Genève, une série de consultations thématiques. Alors la première à Genève, ça va être sur les droits de l'homme et la lutte contre la xénophobie, le racisme et l'intolérance. On va avoir une deuxième session, prescrite encore là, par la décision de l'Assemblée générale, sur les causes de la migration, les facteurs qui poussent les gens à partir volontairement ou non, les facteurs qui les attirent dans des pays, par exemple, où il y a du travail pour eux. Et ensuite, on va avoir toute une série, il y a 6 sessions thématiques de ce genre qui vont traiter aussi du trafic d'êtres humains. Alors, toutes sortes d'aspects, l'aspect travail, le marché du travail. Alors, on va examiner tout ça, ce qui va nous amener à l'automne 2017, où il va y avoir une espèce de réunion là, pour voir où on en est, et la préparation d'un document qui, au début de 2018, va servir de base aux négociations formelles entre les États. Il va falloir aussi, bien sûr, essayer de mobiliser beaucoup d'acteurs de la société civile, de l'entreprise privée, l'opinion publique en général pour accompagner ce processus.
La discrimination et la violence contre les réfugiés et les migrants augmentent ces jours-ci. Les Nations unies ont lancé la campagne Ensemble pour promouvoir le respect, la sécurité et la dignité pour tous. Pourriez-vous nous dire pourquoi nous avons besoin de ce type de campagne et comment elle s'inscrit dans le processus intergouvernemental que vous avez décrit ?
Je pense que pour sensibiliser les dirigeants politiques qui devront prendre des décisions, je l'espère, très appropriées, progressistes en matière de migration, c'est très important qu'ils aient l'appui de l'opinion publique. à travers le monde, dans leur pays en particulier. Et donc, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Dans une certaine mesure, pour dire la vérité, changer une perception qui, présentement, comme vous l'avez dit, est souvent très, très négative. Une attitude qui est basée, d'une part, sur une perception que les migrants, ce sont des fardeaux pour le pays qui les accueille ou des menaces. Alors que dans la réalité, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup de travail à faire, il faut complètement changer cette perception négative et peut-être pas complètement la remplacer, mais au moins l'accompagner de données basées sur les faits qui racontent une histoire très différente de la contribution que les migrants ont fait dans l'histoire qu'ils font présentement et qu'ils vont continuer à faire, non seulement pour la prospérité des pays qui les accueillent, mais pour la transformation de sociétés qui, inévitablement, deviennent de plus en plus pluralistes et diverses.
Des experts des droits de l'homme de l'ONU ont déclaré que des services sociaux et de santé accessibles devraient être mis à la disposition des personnes handicapées dans le cadre de ces nouveaux pactes. Quelle est votre réponse à leurs préoccupations?
On a beaucoup de travail à faire de persuasion, mais il faut comprendre que les personnes, par exemple, qui sont non seulement des migrants, non seulement des personnes handicapées, mais encore pire dans le cas de personnes qui sont dans une situation d'irrégularité, dont le statut est mal ou pas documenté, ces personnes-là vivent dans un environnement de vulnérabilité encore plus extrême. Alors, il faut vraiment sensibiliser l'opinion publique et ça ne peut se faire que dans la mesure où on porte attention aussi aux besoins des sociétés d'accueil. Très souvent, dans les sociétés d'accueil, ce sont les plus pauvres ou ce sont les sociétés les plus appauvries à qui on demande un geste de générosité. Il va falloir s'adresser également à leurs besoins à eux pour qu'on ait vraiment une perception d'égalité, d'équité dans le traitement des populations migratoires et des pays qui les accueillent.
Louise Arbour, merci.
Merci beaucoup.
Second invité d'ONU Info, Jean-Christophe Bast, fondateur et président de Global Compass, à l'occasion de la tenue du 4e Forum mondial sur le dialogue interculturel, tenu début mai à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Au micro de Jocelyne Sambira, ce spécialiste de la paix, du dialogue, qui a notamment travaillé à la Banque mondiale et aux Nations unies, au bureau de l'Alliance pour les civilisations, souligne pourquoi il importe de promouvoir l'entente entre les cultures et donc entre les peuples.
Cette question de l'entente entre les cultures ou de la diversité est une question qui ne peut pas être résolue par les gouvernements. Et si on veut réellement avoir un impact, et si on veut réellement toucher la tête mais aussi le cœur des gens, il faut procéder différemment. Dans ce qu'on appelle les enjeux globaux, le réchauffement climatique et la lutte contre la pauvreté, qui sont les deux grands axes de l'agenda international. Ces deux questions immensément importantes peuvent être d'une certaine manière résolues en grande partie par des décisions gouvernementales. Autrement dit, si les gouvernements disent on va réguler les émissions de CO2 ou on va mettre beaucoup d'argent pour aider les plus pauvres, des grosses différences peuvent se faire. Si demain les gouvernements du monde disent il faut que tout le monde s'aime et qu'au-delà des cultures et des religions, tout le monde va s'aimer, l'impact sera quasiment inexistant. Et donc ça veut dire qu'il faut réellement s'y prendre différemment et se dire qu'il faut toucher la tête et le cœur des gens. Et l'un des participants le rappelait aujourd'hui en disant « Mais le dialogue le plus efficace, ça n'est pas celui qui a lieu entre les dirigeants gouvernementaux, c'est celui qui a lieu entre les gens de la rue, c'est-à-dire l'opportunité pour des personnes de pays différents, de cultures différentes, de se rencontrer, de partager un repas, de partager un moment ensemble et de réaliser qu'après tout, malgré toutes leurs différences de couleur de peau, de religion, de différentes cultures, leurs aspirations en tant qu'êtres humains sont les mêmes. Nous aspirons tous, enfin en tout cas 99% de la population mondiale, nous aspirons tous à vivre en paix. Nous aspirons tous à vivre dans un environnement familial ou amical, harmonieux. Nous aspirons tous à avoir un travail. Nous aspirons tous à vivre dans un environnement propre et sain. Nous aspirons tous à pouvoir trouver l'éducation pour nos enfants. Et donc, je crois qu'on a toujours tendance à insister sur ce qui nous différencie, alors que finalement, ce que nous avons en commun est tellement plus important. Et je crois que de ce point de vue-là, il est aujourd'hui très urgent, et c'est une des choses, enfin c'est la priorité sur laquelle travail, donc le Global Compass, cette organisation que j'ai créée l'année dernière, la priorité des priorités, c'est de voir aujourd'hui comment engager de nouveaux acteurs pour promouvoir l'entente entre les peuples et les cultures au-delà des différences.
Il y a une montée, une sorte de révolte, surtout des jeunes, contre le système. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que vous pensez sur ça?
On a eu effectivement une session qui était consacrée à la montée des populismes et à la polarisation, qui est effectivement un phénomène qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de parties du monde. Ça n'est pas seulement un phénomène du monde occidental, du monde riche ou du monde en développement. Non, c'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup de sociétés où les gens expriment une peur par rapport à la mondialisation. Ils ont le sentiment de ne pas bénéficier de la mondialisation, de l'économie. Ils ont le sentiment, au contraire, de perdre leur capacité de décider, d'influencer, de peser sur les décisions. Et ça a créé une sorte de malaise mondial. Et justement, c'est une des choses que l'on a dites pendant cette discussion, c'est que pendant les 20 dernières années, on a beaucoup parlé, vous savez, du clash des civilisations, le livre de Huntington en disant, voilà, c'est ce qui va détruire la planète. Et puis aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire qu'il y a plutôt une sorte de risque de guerre civile mondiale, avec des populations qui sont de plus en plus frustrées, qui ont le sentiment de ne pas bénéficier ou d'être les victimes de la mondialisation, de l'économie, mais aussi des cultures. Et donc c'était effectivement le sujet cet après-midi. Alors, on le sait, c'est un sujet qui est très difficile et on le voit, je dirais, mois après mois, les élections. Le clivage aujourd'hui, il n'est plus entre ce qu'on appelait autrefois la droite et la gauche, ou entre les socialistes et les conservateurs. Ce clivage, aujourd'hui, n'existe plus d'une certaine manière. Il est remplacé par un autre clivage. C'est un clivage entre ceux qui, effectivement, expriment une volonté de vivre dans un monde ouvert, régionalement, internationalement, qui ont compris ou qui ont accepté l'idée d'un monde ouvert, et ceux qui disent qu'ils veulent revenir derrière leurs frontières, retrouver leur souveraineté, leur capacité de décision, etc., etc. Et ça, c'est aujourd'hui devenu le véritable clivage qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés. Il faut, et c'est une des grandes difficultés aujourd'hui dans la plupart des pays, c'est que on n'est plus à la recherche, où on trouve de plus en plus difficile d'établir des consensus ou d'essayer de trouver des manières de vivre ensemble et de respecter les opinions des autres. Et je pense qu'il serait très mauvais d'avoir une solution qui soit de repli sur soi, de même qu'il est très mauvais d'avoir des solutions qui sont d'ouverture complète en ignorant des réalités. Je pense que la règle de base, elle est qu'effectivement, si on veut développer de la croissance et de la prospérité, il faut de l'ouverture. Mais il ne faut pas n'importe quelle ouverture. Il faut une ouverture et une prospérité qui ne laisse personne derrière et qui soit partagée. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le message très fort, il est que le modèle économique dans lequel nous vivons doit être un modèle qui doit être réformé et que l'on doit inventer un nouveau modèle de développement économique qui tienne en compte les plus démunis et les plus déshérités.
Voilà, fin de ce nouveau chapitre d'Escale, un magazine consacré cette semaine aux migrations et à la diversité culturelle. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Pascal Sim et de Jocelyne Sambira, ainsi que de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.